À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 2h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on va parler de la menace qui pèse sur la desserte de la gare de Châtellerault. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on parle là également rail et train avec Renaud Lagrave qui est vice-président en charge des transports à la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour.
Bonjour.
Vous étiez récemment sur le territoire de la Vienne pour un point d'étape et une visite sur le chantier de renouvellement de la voie ferrée entre Poitiers et Limoges. Peut-être expliquer un peu à nos auditeurs et à nos auditrices quel est l'enjeu de cette desserte Poitiers-Limoges.
Ben, c'est une desserte d'abord extrêmement importante au niveau de la région, qui est fortement menacée puisqu'on a déjà des ralentissements sur cette ligne sur certains endroits à 70 km/h, d'autres qui nous étaient annoncés à 40 km/h dans les prochaines années, ce qui devait aboutir à une fermeture de ligne, hein, soyons clairs. Donc on a pris, je dirais, les mesures nécessaires pour qu'il puisse y avoir véritablement des travaux là, à la fois cette année et l'année prochaine, pour éviter cette fermeture, retrouver une vitesse normale sur cette partie de TER, avec dans l'idée, si vous voulez, qu'on ait en plus de ça, de l'offre qui nous permette de faire de l'origine destination, c'est-à-dire en fait Limoges-Poitiers, et Poitiers-Limoges d'ailleurs de l'autre côté, quasiment directement sans arrêt pour gagner beaucoup de temps sur cette ligne-là. L'étoile ferroviaire, si vous voulez, de Limoges est malade, on va dire ça comme ça, pour pas dire plus. Il y a déjà des lignes qui sont fermées, d'autres qui nous sont annoncées en fermeture dans les prochains mois. Donc là, on évite une fermeture et surtout, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait évidemment de l'offre pour les usagers.
Et comment on est arrivé à cette situation? Pourquoi tant de ralentissements et pourquoi Limoges se retrouve comme ça un petit peu délaissé en termes de desserte?
Bon, si c'était que Limoges. Mais c'est en fait tout le réseau ferroviaire qui est laissé à l'abandon par la SNCF et par SNCF Réseau en l'occurrence. Hein. Et le propriétaire de ces voies, c'est l'État. Donc il faut replacer le contexte dans la réalité d'aujourd'hui, qui est que c'est l'État qui est propriétaire et qui vient faire les poches des régions en menaçant de fermeture de lignes et si on ne paye pas. Donc en fait, ça fait des années que ça dure. Hein. Angoulême-Limoges a fermé malheureusement il y a quelques années à cause de ça. Et en fait, il n'y a pas assez d'entretien sur un certain nombre de lignes depuis maintenant des années et des années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des débats qui sont très intéressants. Hein. Il ne faut pas fermer, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et au moment où il faut parler d'argent, et notamment de la part que l'État verse à SNCF Réseau pour entretenir le réseau ferroviaire français, bon, ben là, il n'y a plus personne. En France, on est à 53 euros par habitant pour les travaux sur le réseau ferroviaire, pendant que tous les autres pays européens se promènent allègrement au-dessus de 100 euros. Donc, cherchez l'erreur. Il y a aujourd'hui une volonté de la part de l'État de ne pas assumer sa responsabilité de propriétaire du réseau ferroviaire, malheureusement d'ailleurs. Bon, on a des rendez-vous qui arrivent, hein, qui vont permettre notamment aux parlementaires de s'exprimer dans le cadre du contrat de performance avec l'État et SNCF Réseau, et puis dans la conférence des financements des mobilités qui est annoncée pour le mois de juin. Donc, j'ose espérer qu'on aura une mobilisation tous azimuts sur le sujet.
Donc, parlons argent, justement. Plus de 70 millions d'euros pour ces travaux et la région Nouvelle-Aquitaine en finance un petit peu plus de la moitié. Comment on arrive justement à financer ces travaux?
C'est par des choix budgétaire, hein, puisque ça ne vous a pas échappé qu'on n'avait pas eu de ressources supplémentaires. Je vous signale juste que l'année prochaine, on remet la même, hein, parce que pour faire, il y a deux parties de travaux, donc on aura les mêmes.
Oui, ça c'est pour le premier tronçon entre Saint-Benoît et Latus-Saint-Rémy. Hein.
Exactement, et l'année prochaine, on remet le couvert pour la partie qui va vers Limoges. Donc, résultat des courses, c'est effectivement au moment des choix. Et les choix, on les a faits en fonction justement de l'annonce d'SNCF Réseau d'une éventuelle fermeture de cette ligne, et on le prend à temps, ce qui n'a malheureusement pas pu être le cas sur toutes les lignes de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on le prend à temps pour éviter justement cette fermeture.
Et quelle est la nature des travaux? Il y a à la fois les rails, mais aussi des travaux hydrauliques.
Oui, c'est ce qu'on appelle la régénération dans le langage SNCF. C'est-à-dire, effectivement, c'est les rails, c'est l'ensemble également de la voie qui est traitée. Et puis, une partie aussi, une petite partie de signalisation sur certains endroits, les passages à niveau, enfin, voilà, pour retrouver une vitesse normale sur cette ligne-là, quoi.
Et quel est le gain attendu une fois les travaux terminés?
Alors, normalement, si tout s'est bien passé, pas loin de 20 minutes, donc ce qui est déjà pas mal. Et sachant que si on travaille justement sur une politique d'arrêt qui nous permette d'avoir du Limoges-Poitiers direct, alors il y aura peut-être un ou deux arrêts, on va en discuter, pas sur tous les trains, hein, que je me fasse bien comprendre. C'est ce qu'on appelle, nous, les bolides, c'est-à-dire un train, par exemple, le matin et un retour le soir, qui permet d'aller chercher un TGV à Poitiers pour ensuite partir sur Paris pour celles et ceux qui le souhaitent. Bref, c'est ce qu'on a fait sur Périgueux, c'est ce qu'on a fait sur Dax, sur Mont-de-Marsan, sur pas mal d'endroits en Nouvelle-Aquitaine depuis qu'on a la LGV à Bordeaux et qui fonctionne bien. Et donc, l'idée, c'est d'avoir aussi cette offre-là potentielle, pour voilà, avoir un temps de parcours ensuite qui soit le plus efficace possible, notamment pour relier Paris.
Et puis, pendant les travaux, vous avez dû mettre en place des cars de substitution.
Absolument. Bah, c'est assez logique, parce que sinon, ça veut dire que celles et ceux qui n'ont que le transport public pour se déplacer n'avaient plus rien. Donc, en général, quand on a des fermetures de voies temporaires comme ça pour le temps des travaux, bah, on met effectivement des cars de substitution qui permettent de desservir l'ensemble des arrêts et notamment des gares et des haltes.
Alors, vous parliez de la conférence de financement des mobilités que vous attendez, là, qui va arriver ce printemps. Quelles sont les attentes, vous, en termes de région Nouvelle-Aquitaine?
Ben, vous savez, c'est quand même relativement important qu'il puisse y avoir enfin une prise en compte de ce qui se passe dans la réalité. Le budget, vous l'avez certainement vu, de la région, c'est à peu près 3,2 milliards. Sur ce budget-là, il y a à peu près 1,2 milliard qui va aux mobilités, au pluriel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les recettes, c'est les ventes de billets, c'est une partie de reste à charge des familles pour le transport scolaire, et tout le reste, c'est le budget régional. Vous prenez n'importe quelle agglomération, il y a le versement mobilité qui vient équilibrer parfois d'ailleurs le réseau de transport. Donc nous, on va en avoir une partie de par la loi de finances, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Enfin, c'est très, très loin de la somme que je viens de vous indiquer. Donc, la question, c'est notamment, par exemple, si je prends le réseau ferroviaire, c'est est-ce que l'État va enfin faire en sorte d'entretenir le réseau ferroviaire, là où nos concitoyens prennent de plus en plus le train, hein. On est passé de 63 000 voyageurs en Nouvelle-Aquitaine en 2019, on est quasiment à 102 000, 105 000 en ce moment, donc une augmentation qui est régulière, encore ce début d'année là, on a encore plus de fréquentation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on veut avoir plus d'offres, plus de trains, il faut que la région soit sur uniquement l'offre de TER, et plus sur payer des péages qui sont de plus en plus chers, payer des travaux qui, en l'occurrence, sont propriétés de l'État. Donc, vous savez, quand on traite l'accessibilité de nos lycées, on ne va pas faire les poches des autres collectivités. Eux, quand ils traitent l'accessibilité des gares, quand ils traitent la régénération des voies, ils viennent faire les poches de tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la conférence des financements peut mettre fin à ce dispositif qui consiste à dire, bah, en fait, si vous ne financez pas, bah, on ferme, ce serait déjà une première bonne nouvelle. Et puis ensuite, il faut que, par rapport à ce qui avait été voté en 2019, notamment sur la loi sur les mobilités, qui prévoyait et qui prévoit d'ailleurs la mise en place de contrats opérationnels de mobilité sur les territoires ruraux, tels qu'on les a fait en région Nouvelle-Aquitaine, la loi de 2019, elle dit plein de choses, sauf le financement de ces nouvelles mobilités. Or, dans les territoires ruraux, dans nos territoires ruraux, moi je suis élu des Landes, hein, donc dans un territoire rural, il n'y a pas de financement, à part la part de la région qu'on a pu mettre sur le budget régional. Il n'y a pas de financement pour pouvoir mettre qui du transport à la demande, qui du covoiturage, qui des vélos en libre-service. Tout ça mérite quand même qu'on s'y arrête. Et j'espère que moi, les parlementaires, les élus qui vont se mobiliser sur cette conférence des financements, viendront aider la région dans, sur ce sujet-là. Parce qu'on reçoit moult demandes de la part des élus, et notamment des parlementaires, pour travailler sur telle ou telle voie, éviter telle fermeture. Bon, ben là, la balle est dans leur camp. Hein. Il y a le contrat de performance entre SNCF Réseau et l'État qui doit être signé dans les mois qui viennent, et la conférence sur le financement qui doit déboucher, j'imagine, derrière, sur, pourquoi pas, une loi de programmation qui permettrait d'avoir une visibilité pour l'ensemble de la mobilité dans notre région comme sur le territoire national.
Sachant que vous le disiez, la demande augmente, notamment dans la région, et ça contribue au rôle et à la mission qu'on a actuellement de transition écologique et que la région a mis dans ses priorités.
Vous avez tout à fait raison, c'est l'état d'esprit dans lequel on est depuis qu'on a travaillé notamment sur Néoterra. Il y a maintenant une dizaine d'années, le président de la région demande à des scientifiques autour d'Aclimatera de nous dire quel est l'avenir de la Nouvelle-Aquitaine justement à l'aune du changement climatique. Ben, on sait aujourd'hui ce qui va nous arriver dans quelques années. En tout cas, on a des éléments scientifiques qui nous permettent de le dire. Donc, il faut prendre des décisions maintenant si on veut éviter justement ce qui est indiqué dans ces rapports, notamment sur la question des transports, pas que d'ailleurs le transport des voyageurs, mais aussi le transport des marchandises. Et c'est des sujets sur lesquels il faut être proactif, mais encore faut-il qu'on ait les moyens de nos choix politiques. Or, aujourd'hui, comme vous le savez, on dépend des dotations de l'État qui sont malheureusement en large baisse encore cette année.
Alors, une dernière petite question qui n'est pas forcément préparée pour vous, puisqu'on accueille juste après Jean-Louis Moreau, qui est membre de l'association Châtellerault Notre Gare, Notre Avenir, puisqu'il y a un risque d'abandon de la desserte TGV de la gare de Châtellerault avec le TGV du matin qui faisait halte effectivement à Châtellerault. Et je ne sais pas si vous voulez réagir et ça introduira la suite de notre discussion.
Ah bah écoutez, moi je considère aujourd'hui que par rapport à la LGV telle qu'elle avait été prévue, au moment de sa création, le compte n'y est pas, parce qu'il y avait des dessertes qui avaient été promises par le PDG de SNCF à l'époque à beaucoup de collectivités, moyennant d'ailleurs de la participation financière des dites collectivités. Et malheureusement, les TGV ne s'arrêtent plus dans ces gares-là autant que ça avait été promis aux élus à l'époque. Donc moi, aujourd'hui, si vous voulez, pour être très clair, le compte n'y est toujours pas. J'ose espérer que l'arrivée de nouveaux opérateurs, justement sur la ligne Atlantique, permettra une meilleure desserte sur la ligne de TGV. Demain, j'entends ici ou là pas mal de nouveaux opérateurs se mobiliser sur la façade Atlantique. C'est plutôt une bonne nouvelle, et surtout une bonne nouvelle pour les usagers, et certainement d'ailleurs pour les collectivités qui, à l'époque, avaient financé et qui n'ont pas le compte qu'on leur avait annoncé.
Merci beaucoup Renaud Lagrave. Je rappelle que vous êtes vice-président en charge des transports à la région Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être intervenu sur ce point d'étape du chantier de renouvellement de la voie ferrée entre Poitiers et Limoges. Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous.
Le premier festival des arts à l'école débute ce mercredi 2 avril au Futuroscope et au Palais des Congrès. Il y aura des tas de jeunes, des milliers de jeunes, mais aussi des jeunes artistes issus des chantiers des Francofolies. Je vous propose de les découvrir lors de cette émission. On commence par Poppy Fusée. Elle sera donc mercredi en showcase à 15h30 et en concert à 21h. Voici le titre « It's over ». It's a trap and I'm never going back. You're a trap, trap. Was a rat, rat in your trap, trap. I escaped, now you gave me less and less. I left you high and dry. Now you want my autograph. Want my photograph. I'm done writing on your behalf. I'm doing great, now it's over. Shoulders, it's over. I'm over you. I'm doing great now. It's over. Another weight of my shoulders.
Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise.
Merci.
Pulsar, c'est bon.
Regarde ces bulles.
Il doit y avoir une vie organique, je pense.
Point d'exclamation.
Eh bien voilà, à votre santé.
Et pour continuer à parler de transport, on accueille Jean-Louis Moreau, membre de l'association Châtellerault, Notre Gare, Notre Avenir. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Effectivement, ça prend la suite de l'interview juste avant, puisque vous vous mobilisez pour un projet de suppression d'un TGV qui s'arrête aujourd'hui à Châtellerault. Racontez-nous peut-être déjà comment vous avez découvert cette possible suppression.
Alors c'est assez simple, notre association donc a un certain nombre d'abonnés TGV et dans ce cadre-là, nous avons un interlocuteur au niveau de la SNCF TGV qui régulièrement nous informe quand il y a des problématiques. Et là, il nous a invité à une visioconférence pour nous expliquer qu'il y avait un problème sur le premier TGV du matin, donc celui qui dessert Châtellerault à 6h49, qui arrive à Paris à 8h. Autour de 8h30, en nous disant qu'il était surfréquenté et qu'il cherchait une solution. Alors, sur ce point-là, on ne conteste pas, puisque les abonnés nous le disent, qu'ils ont de plus en plus de difficultés. Et la solution pour régler le problème, c'est de nous dire, nous, on veut travailler à matériel avec un budget constant et matériel constant. Donc, ce qu'on propose, c'est de supprimer le deuxième TGV pour récupérer la rame, pour renforcer le premier. Voilà. Bien évidemment, pour nous, cette proposition n'est pas acceptable, puisque alors c'est un TGV qui part de Poitiers. Donc, d'une part, ça supprimerait aussi un TGV à Poitiers. Ça supprimerait un deuxième TGV le matin à Châtellerault, en sachant qu'il n'y en a que deux le matin. Donc, si vous avez un problème sur le premier TGV, un ennui, mais vous n'avez plus de possibilité de partir à Paris dans la matinée. Donc, nous avons, à partir de ça, décidé d'informer l'ensemble des élus. Les élus locaux, les élus départementaux, les parlementaires, y compris des départements limitrophes, pour les inviter à se mobiliser. Et ça a débouché sur un premier rassemblement, d'ailleurs à l'initiative des élus. On salue cette initiative. Bien évidemment, nous y avons participé. C'était le 22 mars dernier. Nous avons été reçus la semaine dernière par Madame la maire de Poitiers, Madame la présidente de Grand Poitiers, en présence du maire et président de l'agglomération de Châtellerault, mais également du collectif des abonnés TGV de Poitiers. Donc voilà, donc les démarches se poursuivent. Nous avons été reçus par le député de notre circonscription qui s'est engagé à solliciter un rendez-vous auprès du ministre des Transports. Donc voilà où nous en sommes. Et puis, autre élément aussi important peut-être à vous donner, c'est que donc la SNCF nous a réuni les collectifs d'abonnés individuellement pour essayer, on pense, de nous diviser. Manque de chance, nous, on se consulte et nous avons répondu de même voix en disant qu'on ne voulait pas de cette suppression. Par contre, on veut une réponse à la surfréquentation du premier TGV.
Quelles sont les personnes, les entreprises, les secteurs d'activité qui seraient potentiellement le plus touché par cette suppression? Est-ce qu'on a une idée?
Moi, je n'ai pas d'idée précise, mais à Châtellerault, on va dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont impactées. Bon, il y a déjà les gens qui vont travailler à Paris tous les jours ou plusieurs fois par semaine. On est en Nouvelle-Aquitaine, la deuxième ville industrielle en termes de rapport du nombre d'emplois industriels par rapport à la totalité des emplois, avec des entreprises qui ont toutes leur siège en région parisienne. Donc, il y a dans la semaine... Je ne connais pas la quantité, mais il y a tous les jours des déplacements de personnes qui vont à Paris ou de gens de Paris qui viennent à Châtellerault. On a par exemple en termes du tourisme, thermalisme, on a les personnes qui viennent en cure à La Roche-Posay, qui pour la plupart d'ailleurs quand elles repartent prennent ce TGV de 9h. Nous avons quelques étudiants qui vont à Paris et puis il y a après les gens qui prennent le TGV pour des raisons tout à fait diverses. Et donc c'est pour nous un problème important pour l'attractivité du territoire. Excusez-moi d'avoir bafouillé.
Pas de problème. Et du coup, quelles seraient pour vous les solutions pour maintenir un service qui correspondrait à la demande à Châtellerault, mais également à Poitiers, effectivement?
Alors, nous avons... L'ensemble des associations a fait une proposition, puisque le deuxième TGV dont nous parlons, qu'ils veulent supprimer, il a la particularité... D'avoir deux rames. Une rame qui part de Poitiers, une rame qui part de Tours et qui se raccorde à Saint-Pierre-des-Corps. Et en accord avec les abonnés de Saint-Pierre-des-Corps, comme ce deuxième train qui arrive à 9h30 à Paris est moins fréquenté, nous avons proposé de récupérer la rame qui part de Tours pour la mettre sur le premier train. La réponse de la SNCF immédiate a été de nous dire techniquement c'est impossible. Voilà où nous en sommes.
Et alors, effectivement, les élus vous ont soutenu. Le département de la Vienne, notamment, vient de voter une motion pour souligner l'importance de la desserte TGV. C'est important, effectivement, que ce soit l'ensemble d'un territoire qui parle d'une seule voix.
Tout à fait, c'est très important. Ça montre bien qu'il y a un vrai problème pour le territoire. Et il est important aussi de rappeler que c'est aussi pour ça que les élus se mobilisent. Quand la LGV a été créé, les collectivités ont été sollicitées pour financer. Et il y a donc une convention dont l'État est garant qui devait maintenir l'ensemble des dessertes jusqu'en 2027. Donc je pense que la démarche des deux présidents de Poitiers, de Grand Poitiers et de Grand Châtellerault, c'est un courrier au préfet de région pour qu'il se porte garant de ce que l'État a apporté comme garantie à l'époque, donc en 2017.
Oui, c'était 27 millions d'euros que le département de la Vienne avait investi.
Il y a le département, il y a Grand Poitiers, il y a Châtellerault, tout le monde a mis de l'argent.
Pour pouvoir avoir ces dessertes. Alors, quelles sont les prochaines étapes de votre action voilà, vous disiez courrier un peu plus haut au préfet, au ministre.
Voilà, il y a toute une série de démarches qui sont en cours, demande de rendez-vous au ministre. Donc nous gardons le contact avec les élus qui nous informent au fur et à mesure, et vice-versa si nous avons des informations de la SNCF. Et puis nous allons... la décision a été prise avant cette annonce. Nous, notre association, a décidé le 8 avril de faire une initiative publique dont la thématique est sur quelle voie s'engage le service public ferroviaire. Et donc nous aborderons deux sujets, le TGV, puisqu'il y a cette problématique, mais en toile de fond, il y a ce qu'a abordé tout à l'heure M. Lagrave sur l'ouverture à la concurrence, et je dois dire que je ne partage pas son optimisme, puisque nous savons malheureusement que les compagnies ferroviaires qui arrivent aujourd'hui sur le réseau vont uniquement sur les dessertes dites les plus rentables. Donc en gros, ce qui les intéresse, c'est du Paris-Bordeaux, éventuellement une desserte à Tours. Et donc, il y a une inquiétude supplémentaire pour des villes comme Châtellerault, Poitiers, je pense même qu'il peut y avoir des inquiétudes pour La Rochelle. Donc voilà, on veut évoquer ce sujet. Donc il y a un vrai sujet qui doit être réfléchi par notre association pour faire remonter aux élus, qui sont des questions qui touchent à l'aménagement du territoire.
Oui, une vision à plus long terme. Mais d'ailleurs, vous êtes en train de distribuer une petite enquête, un questionnaire pour que les habitants puissent participer à cette réflexion.
Voilà. Alors là, c'est sur le TER, puisque donc la région Nouvelle-Aquitaine a décidé donc d'ouvrir dès 2028, donc décembre 2027, le TER, et en commençant par le Poitou-Charentes. Et donc, nous, on veut d'ores et déjà peser sur le contenu du cahier des charges. Et donc, actuellement, on a lancé une enquête pour savoir quelles étaient les remarques, les besoins pour faire remonter aux élus régionaux. Et on fera, lors de notre réunion, un premier débriefing de cette enquête. Et puis, on fera un certain nombre de remarques, on fera remonter un certain nombre de propositions pour que, véritablement, ça reste un service public pour développer le territoire, pour répondre, ça a été évoqué dans l'émission précédente, aux enjeux climatiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons aussi associé à notre réflexion l'association À Vélo Châtellerault.
Donc rendez-vous le 8 avril, juste le lieu et l'heure?
Alors c'est le 8 avril à 18h, salle Camille Paget à Châtellerault.
Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Jean-Louis Moreau, donc membre de l'association Châtellerault, notre gare, notre avenir, d'être venu nous parler donc de ce risque sur la desserte TGV de la gare de Châtellerault. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et tout de suite avec le Toit du Monde, on rencontre Guillaume Marsalon de la CIMAD.
Bonjour Guillaume Marsalon, tu es délégué centre-ouest de la CIMAD et on vient parler là de l'après-manifestation qui a eu lieu samedi dernier devant la Poste et qui a été manifestement une réussite pour la régularisation, la demande de régularisation d'une partie des livreurs de Guinéens, de Poitiers notamment. Est-ce que tu peux, vous avez tiré un bilan, j'imagine, à la CIMADE avec la CFDT peut-être de cette manifestation. Est-ce que tu peux nous dire un peu le bilan que vous en avez tiré, puis peut-être après les perspectives qui se dessinent pour la suite?
Alors oui, alors un bilan, c'est un bilan d'étape nécessairement, puisque on est au milieu du guet. Le bilan d'étape aujourd'hui, c'est une belle mobilisation samedi qui s'est faite à l'issue de beaucoup de discussions avec les livreurs qui ont duré depuis plus d'un an et demi de préparation de ça. Donc un vrai courage collectif des livreurs qui s'est construit aussi au fur et à mesure du temps. Donc en soi, c'est un beau bilan parce que le chemin est loin d'être fini, mais en tout cas la première partie du chemin a quand même été extrêmement enthousiasmante pour tout le monde, pour les livreurs, pour les militants qui étaient là le 22 et qui étaient là aussi avant.
D'accord. Alors donc j'ai vu que le préfet s'était prononcé pour empêcher toute régularisation collective. Quelle va être la suite de la pression que la CIMADE et CFDT et d'autres associations vont faire vis-à-vis des autorités pour obtenir la régularisation?
Alors, on s'y attendait, hein. Il n'y a pas de surprise dans la réaction initiale du préfet. Les demandes de régularisation, elles sont collectives, mais elles sont quand même basées sur une somme de 20 dossiers individuels. Donc, évidemment que c'était attendu. Maintenant, la suite, ça va être de continuer une pression pour que la réponse soit positive, en gardant bien en tête que si le préfet veut dire oui, la loi le lui permet. Donc en gros, sa phrase disant « je respecte la loi », oui, respectez-la de A à Z et prenez-la aussi dans les capacités qu'elle a à vous faire dire oui.
D'accord. Et donc les permanences vont continuer? Comment commence la mobilisation des livreurs va continuer
Alors oui, on va continuer évidemment à discuter très très régulièrement avec et dans les permanences avec les livreurs, parce que encore une fois, là on est à une étape clé, mais on n'est qu'à une étape. La question, c'est l'après, les réponses qui vont être données, si réponse il y a. La prochaine étape très rapide, ça va être le récépissé, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu extrêmement important qui n'est pas le titre, mais qui est l'enjeu d'après.
Merci Guillaume et puis bravo pour cette mobilisation. À bientôt.
Et merci Dominique Royou pour ces rencontres que l'on fait grâce au Toit du Monde. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Et aujourd'hui commence, comme chaque année, avec l'association Le Centre, un rallye des métiers de l'autonomie, services à la personne et médico-social. Cette année, cette 6e édition va regrouper EHPAD, structures d'aide à domicile, ainsi que des organismes de formation sur tout le département de la Vienne. Donc c'est toute la semaine et c'est en parallèle de la semaine du grand âge organisée par France Travail. Ce rallye est l'occasion pour les demandeurs et demandeuses d'emploi, personnes en reconversion professionnelle, stagiaires, étudiants, étudiantes, de confirmer ou non un projet professionnel dans ce secteur porteur de sens. Néma Le Hérisson Volant, c'est à 15h à la salle des Maniales à Mignaloux-Beauvoir. Il y a une mère qui rêve d'un fils plus ambitieux. Il y a Idali et son mari jaloux. Il y a Néma qui cache la raison des bleus sur son visage. Il y a son mari Nicolas, amoureux de la beauté. Il y a une secrétaire qui épluche les courriers du cœur. Et les fleurs. Voilà le pitch, donc 15h à Mignaloux-Beauvoir. Et puis sur Pulsar, retrouvez à 18h Unstable Drips. À 19h, c'est X-Bull, la bande dessinée. À 20h, c'est Punks. Et de 21h à 23h, ce sont des lives dans Scrogneugneux. C'était Grégory à la réalisation technique. Merci à lui. On se retrouve demain, 12h30, en direct pour une nouvelle émission de Séquence Midi.
Oh, regardez !
Pulsar.